L'incohérence de cette campagne présidentielle laisse perplexe et c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Après avoir encensé Emmanuel Macron, présenté comme un sauveur face à Marine Le Pen par une majorité de la presse, vendu ou plutôt en l'occurrence acheté, répétons-le, par de grands financiers et industriels qui voient en lui leur partenaire d'affaires idéal, celui-ci voit désormais son image s'écailler. Le fringant jeune homme perd de sa superbe. Il est vrai qu'il est difficile de tenir la distance en courant plusieurs chevaux à la fois. On ne peut être pour tout et son contraire dans une même phrase très longtemps. Même les moins avertis s'offusquent à moyen terme d'être pris pour des imbéciles. Le sauveur des extrêmes doit comprendre que le marais n'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. Pousserons-nous la provocation à penser que le soutien de Cohn-Bendit y est pour quelque chose dans cette baisse de popularité? Bien sûr que non. L'électeur français veut que cela bouge, il ne sait pas quoi exactement, mais il est tellement là qu'il attend une révolution qui l'effraie à juste titre en même temps. Du côté de Le Pen, il semble sidérant que celle-ci arrive à s'en sortir aussi facilement face aux médias, quand on sait le profil idéal qu'elle a pour être lynchée. Le traitement qui lui est réservé est loin d'être comparable à celui de Fillon, qui, il est vrai, a largement prêté le flanc. On a découvert les bassesses matérielles et les mesquineries d'un homme. On aurait aimé en savoir plus sur celle qui représente rien de moins que l'extrême droite française, rappelons-le. On est en droit d'ailleurs de se demander pourquoi cette clémence et qui en profite. Hamon est si lisse qu'il ne semble intéresser personne, pas même les électeurs d'après les sondages, et c'est ce qui est évidemment le plus ennuyeux pour lui. Pourtant, le personnage n'est pas moins victime de ses contradictions que d'autres, mais il semble déjà hors course, dépassé qu'il est par les représentants des extrêmes qui sont tant appréciés dans cette campagne. Ce n'est évidemment pas un bon signe pour notre démocratie, qu'il est encore une fois manifestement urgent de réinventer. Et enfin, le sauveur apparaît en la personne de Mélenchon, qui, on ne sait trop comment, a réussi à faire croire que le vieux trotskiste qu'il était aurait évolué et atténué son discours. Il est vrai que les médias de gauche sont enfin réveillés et ne parlent plus que de lui, au point que le Figaro le fait passer pour un démon, rentrant ainsi allègrement dans leur jeu. Malheureusement pour lui, on commence à souffrir de la faim au Venezuela et évidemment, son admiration sans borne pour les régimes autoritaires sud-américains semble tout à coup un tantinet maladroit et surtout dépassé. Il est vrai que ses électeurs sont plutôt jeunes et qu'en l'occurrence, on ne peut pas leur reprocher d'avoir la mémoire courte, mais cela n'empêche pas la connaissance de l'histoire. Et Mélenchon et son équipe d'universitaires d'extrême gauche semblent prêts à nous en conter des histoires, surtout de celles qui se finissent mal. Concluons nos propos désabusés par les sondages dont la fiabilité est régulièrement remise en question à juste titre, vu les pronostics erronés qui se sont succédés ces derniers temps. Fiabilité remise en question car derrière chaque question, justement, on semble découvrir qu'il y a volonté de manipulation et que celle-ci est posée de telle façon que la réponse doit satisfaire celui qui a payé le sondage. Quelle surprise, vu le prix de ces sondages, justement. On se souvient de l'affaire des sondages de l'Élysée sous la présidence Sarkozy. C'est le moins que peuvent faire, justement, ces maisons de sondage qui appartiennent aussi à de grands financiers et industriels. Ce tableau dressé, on souhaite bien du courage à l'électeur pour savoir quoi faire si ce n'est ne pas jouer le jeu de ce système en refusant d'y participer.